Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est le nouveau cheval de bataille d'une partie de la classe politique française. Le communautarisme, et notamment le communautarisme musulman, serait en train de menacer la société et l'unité de la nation française. Une liste s'est présentée aux dernières élections européennes et d'autres seraient en gestation dans plusieurs villes pour les élections municipales de l'an prochain. Des voix se sont élevées pour demander leur interdiction pure et simple par la loi, voire pour modifier la constitution dans ce sens. L'exécutif a fermé la porte à une interdiction, mais non sans promettre de lutter contre le phénomène. Le communautarisme est-il un danger réel ou un fantasme politique? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Claude Dargent, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris 8, spécialiste des questions religieuses et politiques. Et Ilyes Ramdani, bonjour.
Bonsoir, Guillaume.
Vous êtes rédacteur en chef du Bondy Blog, qui est un célèbre site internet qui parle de la vie des quartiers populaires. On va peut-être essayer de se mettre d'accord sur ce dont on parle d'abord. C'est quoi le communautarisme? Comment est-ce que vous le définiriez, vous, l'universitaire Claude Dargent?
Eh bien, le communautarisme, c'est la pente prêtée à certains groupes de vouloir se soustraire de la communauté nationale, de vouloir se soustraire de ses règles et de ses lois pour avoir en quelque sorte un statut particulier au sein par rapport aux autres groupes.
C'est un phénomène qui se manifeste comment? Vous avez peut-être des exemples, Ilyes Ramdani, ou une opinion là-dessus?
D'abord, juste pour compléter la définition, c'est intéressant de noter, je pense que le communautariste, c'est toujours l'autre. Personne ne se dit communautariste. C'est un peu le grand méchant loup, quoi. Et à partir de là, une définition qui se caractérise toujours sur l'autre, elle est forcément suspecte. En tout cas, il faut l'interroger. Et donc, la question que vous posez en introduction, Guillaume, c'est la question clé, en fait. De quoi parle-t-on? Et en l'occurrence, je pense qu'il y a volontairement un flou. On va paraphraser Martine Aubry, quand c'est flou, connaissez l'expression, c'est qu'il y a un loup. Et donc, il y a un flou qui est entretenu dans le discours politique au sujet de quelque chose dont on sait qu'il fait peur, dont on sait qu'il est de nature à réveiller certaines craintes, un certain repli, etc., avec une visée électoraliste évidente, mais je pense qu'on va en parler. Mais par contre, on prend bien soin de ne pas le définir. Et donc, je pense que c'est important de bien le définir. Moi, en l'occurrence, je ne sais pas bien de quoi on parle.
Parce que vous avez du mal, vous aussi, Claude Dargent, à définir la manière dont ça se manifeste.
Oui, on voit ce dont il peut être question. C'est vrai que un certain type de revendications peuvent apparaître communautaristes quand il s'agit de dire, par exemple, que les piscines doivent être à certaines heures réservées aux femmes. Ou quand on évoque la nécessité pour les femmes dans les hôpitaux de pouvoir choisir de ne pas être soignées par un homme, ça, ce sont des revendications qu'on peut qualifier de communautaristes, sauf qu'elles sont extrêmement marginales et qu'elles ne justifient absolument pas l'énervement que l'on constate aujourd'hui, et surtout pas par rapport à ce parti de l'Union des démocrates musulmans français qui a des propositions vraiment tout à fait raisonnables et pas du type de celles que je viens d'évoquer d'ailleurs.
On entend parler de noyautage de clubs sportifs, notamment dans les sports de combat. Il paraît que les services de sécurité intérieure sont vigilants là-dessus. Vous avez déjà constaté des choses comme ça, Ilyes Ramdani
Bon, en l'occurrence, je suis un petit peu dans le milieu sportif.
Oui, vous êtes entraîneur de football.
Ouais, je suis éducateur, effectivement, à Aubervilliers. Et je suis vraiment pas coutumier de la politique de « je ferme les yeux sur des réalités ». Mais alors ça, c'est quelque chose que je découvre sur un milieu que je fréquente régulièrement et que je découvre dans des rapports, dans des articles de presse, dans des discours politiques et qui viennent servir des agendas. Et c'est vraiment à la fois dangereux et à la fois potentiellement humiliant pour les gens de se voir un peu comme ça, pointer du doigt... qu'à des moments où ça sert, voilà, juste avant des élections, comme actuellement. On se rend compte que sur les municipales, ça peut être un enjeu intéressant. Pour revenir sur l'UDMF, il faut quand même rappeler que ça, c'est un parti qui a recueilli, je crois, 25, 30 000 voix aux élections européennes. Donc on parle...
28 469 sur l'ensemble du territoire national.
Merci pour la précision. Guillaume, on est quand même sur quelque chose de très, très marginal, quand bien même ce serait communautariste, ça resterait très marginal, et il faut le souligner, mais effectivement, comme le dit M. Dargent, c'est un parti qui n'est pas plus communautariste que le Parti chrétien-démocrate, je pense.
Oui, oui, justement, alors ce sont en particulier des mouvements politiques qui se réclament de l'islam, qui sont l'objet de l'attention politique et médiatique ces derniers jours, pas les chrétiens, pas les juifs, je suppose que ça ne vous étonne pas, Claude Dargent.
Non, non. Je crois qu'il faut voir dans tout ça les effets d'une concurrence politique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a cru bon de remettre une pièce dans le jukebox sur l'islam en disant que c'était une question qui ne fallait pas méconnaître, et notamment parmi les milieux populaires, et donc dans la concurrence à droite.
C'est l'immigration dont il parlait, mais
oui,
bon, évidemment,
mais de fait,
évidemment, on parle toujours de la même chose sans en parler.
Voilà. Et donc, les Républicains, pour ne pas se voir voler aussi leur fonds de commerce dans cette affaire, ont cru bon de mettre l'accent sur cette question, qui est vraiment une question marginale, parce que le parti en question, effectivement, n'a pas fait 30 000 voix aux élections européennes sur plusieurs millions d'électeurs musulmans. Il faut le rappeler quand même. Donc tout ça est tout à fait marginal et ne justifie pas du tout cette émotion.
Yes Ramdani, il y a une certaine lassitude à voir que c'est toujours la religion, enfin les musulmans en général, hein, quel que soit leur niveau, leur façon de pratiquer, qui sont montrés du doigt.
C'est ouais, effectivement, il y a une lassitude et un regret. Mais déjà un regret même d'être là ce soir pour en débattre. Alors c'est pas à vous que je dis ça pour vous pointer du doigt, mais c'est finalement il y a quand même cet agenda politique médiatique qui est dicté par ces offensives. Alors la ficelle est grosse et on la connaît. Et effectivement, il est opportun de le rappeler, à quel point c'est lassant et c'est un peu dénué de fondement, ou en tout cas c'est très loin des réelles urgences. Mais force est de constater qu'on en parle quand même et que la visée électoraliste que ça recouvrait, elle va peut-être être atteinte. Mais effectivement, c'est un communautarisme, c'est une attaque plutôt offensive, c'est-à-dire que c'est souvent en direction des musulmans et en direction de communautés à qui on refuserait presque le droit de s'organiser, de s'affirmer. Le concept de communauté n'est pas un gros mot, en fait. C'est pas injurieux de faire partie d'une communauté. Au moment de la marche contre l'islamophobie, par exemple, on a beaucoup pointé du doigt cette marche qu'on a accusée de communautariste, notamment à droite. C'est pas honteux que des musulmans se lèvent le dimanche en disant « nous, les musulmans ». Ça n'empêche pas que le lendemain, ils vont se réveiller en disant peut-être certains « nous, les socialistes »,« nous, les militants LGBT », peut-être que le mardi, c'est « nous, les adhérents du club de bridge ». Enfin, on a plusieurs « nous », on a plusieurs identités. Et faire partie d'une communauté, ce n'est pas ne pas faire partie de la communauté nationale.
Et peut-être que les musulmans sont presque aussi divisés que les socialistes. Ils ont peut-être des façons différentes de pratiquer et de voir leur religion. L'islam politique et l'islamisme sont clairement désignés comme des dangers par les responsables politiques de tous bords. Est-ce que ça empêche, vous en parliez, Ilyas Ramdani, les Français musulmans de faire de la politique? Est-ce que ça les retient un petit peu, Claude Dargent?
Je ne sais pas. Ça, il faudrait regarder. Mais en tous les cas, ils ont, sinon faire de la politique, ils ont des attitudes politiques qui leur sont propres. Et ils le manifestent d'un point de vue électoral très clairement par une orientation de gauche dès l'origine. C'est-à-dire que dès que les musulmans ont été assez nombreux pour pouvoir être mesurés dans les enquêtes, on a relevé cette orientation de gauche, donc qui montre bien que s'ils ne font pas tous de la politique, en tous les cas, un nombre croissant s'exprime dans les urnes. Et de ce point de vue-là, on peut dire que justement, c'est de l'anticommunautarisme, puisque c'est une façon de s'intégrer à la société française que de participer aux élections.
Oui, parce que le programme de ce mouvement dont on va reparler, l'UDMF, finalement, il est assez social. Ces questions-là qui intéressent Yes Ramdani.
Oui, mais pour réagir à ce que disait Monsieur Dargent, ça sous-entend. Enfin, c'est intéressant parce que il y a effectivement, et c'est l'objet de ces travaux, l'analyse de comment votent finalement les musulmans en France. Moi, j'ai l'impression, et ce qu'on, en tant que journaliste, voilà, ce que les remontées du terrain, ce qu'on entend sur le terrain, etc. J'ai assez peu l'impression que les musulmans votent en tant que musulmans. Et c'est ce que sous-entend cette accusation de communautarisme. Et finalement, on voit au résultat de l'UDMF que ça répond pas à une aspiration des musulmans de voter en tant que musulmans.
Vous voulez dire qu'il y a une essentialisation du vote musulman, et alors qu'il n'y a pas de vote musulman, c'est ça que vous êtes en train de...
J'ai du mal à croire qu'il y a un vote musulman en France. Mmh. Nous, quand on rencontre des citoyens musulmans, ils se pensent, en tout cas politiquement, ils se pensent d'abord en tant que, parfois en tant qu'enfants d'immigrés, parfois en tant qu'enfants d'ouvriers, parfois en tant qu'habitants de territoires défavorisés. Et donc leurs urgences, elles sont sociales, elles sont économiques, elles sont parfois politiques en termes de représentativité. Mais elles sont rarement religieuses. On se pense rarement en tant que musulman dans l'isoloir. On se pense peut-être musulman dans la sphère privée, dans plein de moments de sa vie, mais pas dans l'isoloir. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai.
Est-ce que vous diriez, Claude Dargent, que les musulmans, toujours en se méfiant de l'essentialisation, ont mieux compris ce que c'est que la laïcité que ceux qui la brandissent ?
En tous les cas, oui, ils ont un rapport à cette question qui est un rapport un peu éclairé, parce qu'effectivement, ils y sont confrontés.
De façon directe.
Mais pour rebondir sur ce que disait Monsieur Ramanani. Moi, j'utilise jamais le terme de vote musulman ou de vote catholique, parce que ce sont des termes qui renvoient implicitement à des formes de consignes occultes qui existeraient, qui ont existé dans le cadre de l'Église catholique, d'ailleurs, dans son passé.
Bon. Les papistes.
Oui, ça a existé dans son passé. Le curé en chaire donnait des consignes de vote. Mmh. Évidemment, maintenant, il n'en donne plus. Ça n'empêche pas que les catholiques ne votent pas comme l'ensemble des autres Français et que les musulmans ne votent pas non plus comme l'ensemble des autres Français. Ça, c'est simplement de la sociologie. C'est-à-dire, ce que nous apprend la sociologie, c'est qu'une appartenance sociale, quelle qu'elle soit, a des effets sur les comportements et notamment sur les comportements électoraux. Plus ou moins prononcés, mais il se trouve que en France, en l'occurrence, le fait d'appartenir à une religion, c'est la variable qui a le plus d'influence sur le vote, plus que la classe sociale, contrairement à ce qu'on croit souvent.
0,13%, 28 469 voix au niveau national, sur 47 millions d'inscrits, il faut le rappeler, c'est le score donc réalisé aux élections européennes du printemps par l'Union des démocrates musulmans de France, l'UDMF. Est-ce que, alors, pour l'instant, c'est très marginal, est-ce que ça peut quand même être le début d'un mouvement, Ilyes Ramdani, ou est-ce que vous ne croyez pas que ça pourrait percer ?
J'avoue que j'ai beaucoup de mal à y croire. Ça voudrait dire qu'on aurait résolu toutes les problématiques et toutes les urgences sociales, économiques, les inégalités, etc. Et peut-être qu'il ne restera plus que la question religieuse à traiter. À ce moment-là, peut-être que ça fera une percée, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à y croire. Et en termes de politique, quand même, ce qu'il faut, si je peux me permettre, donc certes, il y a l'existence de cette liste à qui les responsables politiques de droite ont fait une publicité hors norme, mais gratuite. Moi, j'en connaissais pas l'existence avant d'avoir toutes ces réactions à ce sujet, dont acte. Il faut quand même se dire rapidement que le communautarisme en politique, il est plutôt globalement blanc, masculin, d'un certain âge et d'un certain milieu social.
La démocratie chrétienne, ou même au-delà de ça, vous voulez dire un entre-soi.
Au-delà de ça, on a quand même un manque de représentativité de la classe politique qui est peut-être à interroger encore plus que l'existence d'une liste qui met musulman dans le mot musulman dans le sigle de son parti. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même se poser les bonnes questions, et si on parle vraiment de politique et d'offre politique, pourquoi est-ce qu'on a une offre politique qui ressemble aussi peu à la population ? Le jour où on aura des femmes, des jeunes, des habitants de quartiers populaires, des enfants d'immigrés, des enfants d'ouvriers à leur place dans la sphère politique, peut-être qu'il n'y aura plus du DMF ou du MDF, et peut-être qu'il n'y aura plus d'offensive politique électoraliste de la droite.
Néanmoins, le mouvement a réalisé dans certaines villes, alors on va les citer, comme Maubeuge, dans le nord de la France, Chanteloup-les-Vignes ou Goussainville, en région parisienne, des scores de 6 à 7% des voix. Est-ce que ces listes peuvent éventuellement, avec des scores comme ça, en partant de scores comme ça aux européennes, remporter des municipalités, Claude Dargent ? Je sais que vous n'êtes pas politologue, mais voilà, je vous pose la question quand même.
Un peu sociologue du politique, donc en tant que tel, on peut le faire comme ça. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que, effectivement, c'est une formation politique qui est marginale, et qu'à côté de cette formation politique, il y a d'autres formations politiques, je dirais, généralistes, qui expriment parfois mieux, y compris les intérêts des musulmans et les intérêts sociaux des musulmans, que cette formation-là. D'une façon générale, les partis confessionnels en France, ça n'a jamais fait recette. C'est une des grandes différences entre, par exemple, la France et l'Allemagne, où on a un grand parti de droite qui s'appelle le Parti démocrate chrétien. Ça a été longtemps le cas en Italie aussi, où il y avait une démocratie chrétienne qui était le parti de droite. En France, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché, en tous les cas, jusqu'à présent. Je pense que c'est lié au rapport exigeant différent que la France avec la laïcité. C'est-à-dire que c'est ça quand même la grande différence entre la France et les deux voisins que je viens de citer. Et le fait que la laïcité soit un des principes constitutifs de la République fait que se réclamer d'une religion pour prétendre exercer un pouvoir politique, c'est quelque part un peu particulier.
Je peux peut-être suggérer une explication. Vous allez peut-être rebondir là-dessus. Ilyes Ramdani, est-ce que on parle de ça parce que là où elle a fait de bons scores, l'UDMF est arrivée devant le Parti Socialiste et les Républicains?
C'est possible. Après, ces bons scores, ils sont analysés quand même à l'échelle d'un quartier, à l'échelle... par exemple, c'est Gérald Darmanin, je crois, qui le premier avait mis ce sujet sur la table. Et il évoquait un bureau de vote à Tourcoing de 150 ou 170 votants. Et en fait, ce qui se passait, je pense, c'est que sur la liste de l'UDMF aux Européennes, il y avait un habitant de ce quartier qui a réussi à rameuter un petit peu dans ce bureau de vote et qui a eu 70 voix. C'est-à-dire sa famille, ses amis, peut-être ses partenaires du club de foot. Donc je pense qu'il ne faut pas suranalyser politiquement les quelques percées à l'échelle d'un quartier de cette liste. Et après, effectivement, ça révèle peut-être une faille des grands partis politiques. Mais sur les municipales, pour répondre à la question précédente, et faire d'une pierre deux coups, ce qu'on va voir, c'est plutôt une percée des mouvements citoyens, une percée de mouvements transpartisans, etc. Et confirmer, je pense, l'échec des grands partis, plutôt que l'essor des listes communautaires ou communautaristes, que j'ai du mal à percevoir, moi.
De nombreux spécialistes juridiques disent qu'une interdiction est donc juridiquement très fragile. Et d'ailleurs, devant les maires de France, Emmanuel Macron a repoussé cette idée. Mais il annonce des mesures contre le communautarisme. Ça peut prendre quelle forme, selon vous, Claude Dargent, et vous aussi d'ailleurs, Ilyes Ramdani, Claude Dargent peut-être d'abord.
En tous les cas, c'est clair que d'un point de vue, de la loi fondamentale, de la Constitution, une mesure d'interdiction par rapport à un parti de ce type aurait toutes les chances d'être toquée par le Conseil constitutionnel. Ça va de soi, puisque c'est très clairement une atteinte à la liberté d'opinion, à la liberté de vote, que d'empêcher, ce qui est quand même quelque chose de très rare et de très lourd dans une démocratie, un parti politique de se présenter. Après, je ne sais pas ce qu'Emmanuel Macron a derrière la tête sur ces questions de communautarisme. Je ne sais pas non plus ce qu'il a derrière la tête sur les questions de remise à plat de la loi sur la laïcité, dont on nous parle depuis un certain temps
et qui est toujours
repoussé. Moi, je serais très prudent sur ce registre, parce que je trouve que ça fait partie un peu du compromis français, cette loi, et que une modification en la matière devrait être vraiment pesée au trébuchet, parce que elle peut avoir des effets en chaîne, et je ne suis pas sûr que ce soit bon pour l'esprit public que de repolitiser cette question.
Ilyes Ramdani.
Sur la viabilité juridique, je rebondis à ce que vous dites. C'est quand même ça, je m'interroge 10 secondes sur le plan politique. Ça a été proposé quand même par Xavier Bertrand, qui est aujourd'hui peut-être le présidentiable à droite ou le candidat le plus crédible à droite pour la prochaine élection présidentielle. Ça a été proposé par tout le groupe Les Républicains au Sénat, alors qu'on est d'accord pour dire, et Emmanuel Macron l'a rappelé d'ailleurs justement au congrès des maires hier ou avant-hier, tout le monde est d'accord pour dire que juridiquement ce n'est pas viable. Donc soit nos hommes politiques sont très mauvais juristes, et c'est inquiétant puisqu'ils aspirent à diriger le pays, soit il y a une grosse ficelle, ils savent très bien que ça ne passera pas, mais ça fait gagner quelques voix pour les municipales, et c'est inquiétant. Et pour la deuxième question, oui, très
des
rapidement...
Des mesures contre la communautarisme, ça vous inquiète
Non, ça m'inquiète pas, je pense que tout le monde est d'accord pour combattre. Si demain il y a un fléau communautariste, je pense que tout le monde est d'accord pour le combattre. Maintenant, je pense qu'on fait beaucoup de sujets de quelque chose qui n'est pas une réalité tangible, qui n'est pas un danger pour l'instant, qui n'est pas dénoncé comme tel par les acteurs concernés, par les habitants de ces territoires. Donc je pense qu'on fait beaucoup de cas d'assez peu de choses.
C'est dangereux. Est-ce qu'il vaut mieux pas laisser ces mouvements entrer dans le débat politique pour les affronter sereinement, à visage découvert, Claude Dargent? Comme ça, c'est toujours fait, en fait.
Oui, évidemment, oui. Évidemment, oui, ça fait partie du jeu de la démocratie. Et je crois que c'est un débat que je trouve malsain. C'est un débat que je trouve malsain, qui est un peu une conséquence de la façon dont Emmanuel Macron met en scène son opposition avec le Front National, en cherchant à résumer l'ensemble du débat politique avec ça, et la droite qui court derrière tout ça. Je trouve qu'il y a là effectivement un certain nombre de comportements qui ne sont pas porteurs d'avenir.
Merci Claude Dargent, merci à vous Ilyes Ramdani d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Sigrid Azeroual à la la coordination. Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr. Prochain débat lundi, même heure, même endroit. Demain, vous avez rendez-vous avec Aurélien Devernois pour les dessous de l'Infox. Bonjour chez vous. Le goût du monde.